19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir à tous chers amis auditeurs, quel plaisir de vous retrouver, quel plaisir, puisque vous le savez, la famille grandit. Alors je sais pas, mais on va attendre les audiences, puisque les audiences tombent bientôt, hein. On va voir si évidemment vous êtes de plus en plus nombreux. Moi je suis convaincu, je vous le dis clairement, que vous êtes de plus en plus nombreux. Non pas parce que je capte comme ça dans l'air, non, c'est parce que c'est un sentiment, je sais pas, vous savez parfois quand on capte des éléments, hein, cette énergie positive, eh ben c'est cette énergie positive que je capte, hein, en me disant certainement que la famille, elle est devenue nombreuse. Allez, famille nombreuse, ouais, faut faire attention, hein, parce que ça me rappelle certains discours. Allez, au menu, au sommaire de cette émission, nous partons. Je veux vous embarquer aujourd'hui avec trois sujets. D'abord, une interview, on va parler d'un jeune homme du 9-3, d'un jeune homme qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il a l'âme d'entrepreneur, il a une belle histoire, parce que on va vous la raconter ce soir en direct, il est sur le plateau. Et elle est assez atypique, parce que vous savez, les personnalités atypiques ont toujours des, comment dirais-je, des histoires atypiques, mais en même temps, voilà, ils sortent un peu du lot. Et bien, on va en parler. Et puis ensuite, des débatteurs influenceurs. Il y a du beau monde sur le plateau ce soir. Aline Soumaré, qui est un ancien élu du PS, qui est aujourd'hui consultant, il sera avec nous. Il y a Hassan Mbarki, un vieux de la vieille, une personnalité engagée sur les questions des quartiers populaires. Nabila Itakash, qui représente Renaissance sur le département du 93. Louis Bachou, un brillant intellectuel, un mec qui bâtit, qui est un architecte, qui bâtit, voilà, qui passe sa vie à bâtir. Vous voyez ce que ça veut dire ? Je bâtis. Voilà. Bah, écoutez, c'est le programme que je vous propose. C'est tout. Et puis vous, au 01 53 48 3000, parce que vous êtes les plus importants. Donc, les trois sujets que je vous propose, eh bien, nous parlerons de la ministre de l'Éducation nationale, qui fait encore une petite sortie. Elle dit on ne peut plus lui faire confiance après son mensonge. Aïe, 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 les syndicats. Ça, c'est les profs, hein, c'est pas moi qui dis ça, c'est les enseignants. Alors, Amélie, Oudéa, Castéra, mérite une clochette, parce que la pauvre, elle a du mal à s'en sortir. Hein. Alors, certains, vous savez quoi, il y a deux camps. Il y a le premier camp qui dit nous réclamons sa démission. Clochette ou pas, j'en sais rien. Il y a l'autre camp qui dit elle a menti, elle doit assumer, elle doit s'excuser et elle doit se barrer. Bah écoutez, on va en parler. En tout cas, la polémique, elle enfle. Voilà, elle prend des proportions qui la dépassent. Et puis, le Premier ministre, Gabriel Attal, est fraîchement élu. Pas élu, nommé. Il a du mal à rattraper cette maladresse. Hein. Nous parlerons aussi de l'affaire Théo, le pauvre jeune Théo. Vous savez ce qu'il dit comme déclaration, le jeune Théo ? Il dit « Ma famille m'a continué à avoir un mort-vivant ». Vous vous rendez compte, un jeune homme qui parle comme ça ? « Je suis un mort-vivant ». Franchement, moi j'ai lancé l'invitation à Théo, j'aimerais bien le recevoir ici, mais comme il est en pleine affaire judiciaire, donc il viendra ici, nous en parlerons, nous prendrons le temps de parler de cette affaire. Mais sachez une chose, c'est que il dit, écoutez bien cette phrase, « Je suis mort depuis le 2 février 2017 ». Les assises, ça se passe en ce moment. Ben, nous prendrons le temps d'en parler tout à l'heure. La conférence de presse, la grande messe, clochette, oh là 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 là. Emmanuel Macron revient avec 3 heures de débat, vous vous rendez compte, ça commence à 20h15 et on ne sait pas à quelle heure ça finit. Ça c'est une double clochette, on ne sait pas, c'est vrai, je suis sérieux. Le chef de l'État il a dit je commence à 20h15 mais je ne sais pas à quelle heure je finis. Il a dit 3 heures peut-être, alors je ne sais pas à quelle sauce allons-nous être mangés. Est-ce que ça va être évidemment des déclarations, certainement, peut-être. Ou est-ce qu'il a peut-être... prochainement, ce soir, va-t-il nous annoncer qu'il va y avoir des nominations de secrétaire d'État et d'autres ministres ? Ou peut-être, grande surprise, le fameux référendum qui a été lancé hier par Michel Taube. C'est peut-être ça aussi. Ben, nous en parlerons. C'est parti, c'est tout de suite. C'est maintenant en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
Alors, Ousine, bonjour. Comment ça va, Ousine ?
Bonjour, très bien. Il fait un peu froid.
Froid dans le studio ?
Non, à l'extérieur.
Ça va, vous êtes bien accueillis chaudement ici.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Jeune entrepreneur, Born for You. Born for You, ça veut dire quoi ?
Bah, Born for You, c'est une borne pour toi. Ouais. Et on a joué un peu sur Born for You, né pour toi.
Né pour toi. Ouais. Justement, alors Ousine, vous avez une histoire incroyable. Pourquoi vous m'avez plu ? Parce que justement, elle est atypique. Et dans le côté atypique, évidemment, forcément, tout jeune, au collège, vous le savez, vous étiez un peu déjà à part. Hein. Pourquoi ?
J'étais à part. Bah,
déjà, vous arrivez d'Algérie.
C'est ça. C'est que je suis
très jeune.
Ouais. Je suis un enfant de la décennie noire, ouais. Malheureusement. Donc, J'ai mon père qui était dans l'armée, qui s'est engagé dans l'armée, qui a été tué par des terroristes, malheureusement.
Et ma mère. Ça, c'est les années 90, 91, 92.
La fameuse décennie noire. Et elle a fui quelque part, elle s'est réfugiée en France. J'ai atterri au 4000 dans le 93. Et voilà, j'ai
poursuivi. Vous découvrez les quartiers populaires.
C'est ça, exactement. Je découvre les quartiers populaires. J'arrive dans la cité. C'était un peu compliqué parce que j'arrive en CP.
Ouais.
Je sais ni lire ni écrire ni parler. Et j'arrive.
C'est vrai finalement... parce que le français vous le pratiquez pas. C'était pas votre langue officielle. C'était pas la première langue.
Ouais, tout à fait. Donc j'arrive et je suis au CP et finalement j'ai un complexe d'infériorité face aux gens parce que
ça commence par les français. C'est vrai, ça commence comme ça. Ouais.
J'arrive et je m'étais mis en tête finalement de parler français parce que c'était un complexe et je me suis mis à apprendre le dictionnaire, apprendre le Becherel et j'ai enchaîné.
C'est génial.
Final, un an après en CE1, j'étais un peu devenu le premier de la classe qui levait le doigt systématiquement mais quand même quand on voit ça, on voit qu'on a une belle éducation nationale. On a des profs j'ai des profs qui se sont mis en cadre pour moi, pour m'aider.
C'est bien parce qu'on va en parler tout à l'heure.
Ouais, tout à fait.
Donc pour moi, le service public, ça fonctionne pour vous. Ça a fonctionné.
En tout cas, ça.
Et vous êtes jeune. Rappelez-nous votre âge.
Moi, j'ai 26 ans.
26 ans. Vous êtes jeune. Donc c'était il y a pas si longtemps que ça finalement.
Ouais.
Donc vous dites merci au service public.
Oui, tout à fait. Moi, je dis merci à l'éducation nationale. Je dis merci à la France aussi de m'avoir donné un certain nombre de choses, de possibilités, d'opportunités.
C'est marrant. J'ai envie de poser juste à Hassan. Hassan, c'est un peu l'ancien. Le respect qui s'impose. Hassan, c'est important ce que dit Hossine. J'aimerais ouvrir le micro d'Hassan. Oui. Parce que Hassan, vous étiez longtemps engagé dans les quartiers populaires et vous l'êtes toujours.
Oui, depuis 4 ans.
Quand vous entendez... Non, mais regardez, il vient d'Algérie, ouais. Très jeune. Et souvent, c'est ceux qui viennent du bled... que ça soit du Sénégal, Maroc, Algérie, Tunisie, etc. Souvent, c'est ceux qu'on l'agnaque. Pourquoi ? Et c'est ceux qui remercient la France. Est-ce que vous avez une explication ?
Bon, l'explication, c'est que peut-être ils ont le goût de l'effort, je dirais, et ils sont obligés, si vous voulez, de rattraper un retard. Et donc, généralement, on voit que les étrangers ou ceux qui sont nés à l'étranger font souvent l'effort de mieux apprendre une langue, de la maîtriser, de façon à être dans une logique d'insertion.
Voilà. Ah, c'est ça.
Et d'excellence aussi.
Ça vous parle ?
Ouais, ça me parle. Moi, on va prendre le cas de l'entreprise que j'ai cofondée, Band4You. Dès ma plus jeune enfance, je passais mon temps à la médiathèque. Médiathèque John Lennon à la Courneuve. Et ils mettaient à disposition des magazines, notamment le magazine Science et Vie et Science et Vie Junior. Et dès mon plus jeune âge, ça parlait d'énergie renouvelable, de panneaux solaires, de photovoltaïque. Et dès mon plus jeune âge,
tout jeune déjà.
Je me suis dit, faut que je fasse ça, faut que je participe à ça.
Ah, vous saviez, c'était à quel âge ça ?
Bah, c'était en primaire.
En primaire, vous saviez que vous deviez travailler dans le monde de l'énergie.
Ouais, je me suis dit, faut que je bosse dans des choses qui servent l'humanité finalement, parce que ça a été mon leitmotiv. J'ai toujours eu du mal à m'inscrire et à travailler dans des métiers en fait où je trouve pas du sens. Et pour moi, le sens, servir l'humanité, servir une cause, c'est quelque chose d'important. Et j'ai été sensibilisé à ça, finalement, dès le plus jeune âge, à la bibliothèque, en lisant Science et Vie Junior, National Geographic,
et donc,
etc.
Donc à ce moment-là, vous saviez que vous deviez travailler dans cet univers.
C'est ça.
Ouais. J'aimerais vous poser une question, puisque comme vous m'avez raconté votre histoire en off, on s'est vu, on a pris le temps évidemment d'échanger, vous et moi. Quels sont les profs qui vous ont inspiré, qui vous ont aidé à un moment Est-ce qu'il y a quelqu'un, un enseignant qui vous a accompagné, qui vous a dit écoutez, Hossine, j'ai envie de vous aider. Vous avez le souvenir de ça ?
J'en ai plusieurs. J'avais Monsieur Menton.
Bien dans le micro. Hein.
J'avais Monsieur Menton, ouais. Collège Raymond Poincaré, un prof de mathématiques exceptionnel. C'était un prof très très dur, très très sévère, mais c'est le gars qui m'a donné le goût des mathématiques.
Ouais.
Il était très dur. Ça ne parlait pas dans sa classe. Il m'a donné ce goût de l'effort. Il m'a permis d'adorer les mathématiques.
Ouais.
Ça m'a permis derrière de me diriger vers une filière scientifique. Et j'ai eu un autre prof, Monsieur Gabani, un prof d'histoire, qui m'a donné un goût absolu.
Donc merci aux enseignants. On n'arrête pas de taper sur les enseignants du service public. Allez Soumaré. Mais c'est vrai.
Complètement.
Non, mais c'est vrai.
En tout cas, c'est un beau parcours.
Regardez, on tape sur l'éducation nationale, on dit que c'est nul, etc. Mais quand on l'entend aussi, moi, ça me fait plaisir, moi.
Mais après, il a joué le jeu, il a plus que joué le jeu, même, j'allais dire joué le jeu, il a plus que joué le jeu, donc ça m'étonne pas. Et je pense qu'il a, à mon avis, il a aussi des aptitudes, je veux dire, au-delà du fait qu'il soit né à l'étranger, il y a des aptitudes intellectuelles, quand on les a.
Ouais. C'est vrai, vous les aviez ?
Je sais pas.
Vous ne savez pas.
On verra.
Ah, c'est quoi alors cette niaque? Franchement, aussi, cette niaque, elle vient d'où? Elle est née de quoi au fait? C'est parce que vous venez d'Algérie, que très jeune, vous saviez que vous étiez différent des autres. Quand vous voyez vos camarades de classe qui venaient des quartiers des 3000, est-ce que vous saviez qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas comme eux? Je vous pose la question clairement. Vous étiez différent.
Moi, j'ai eu une chance. J'ai eu plusieurs chances.
Ils sont rebeux comme vous.
Ouais, j'ai eu plusieurs chances.
Il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Portugais. J'imagine que c'était l'univers des 4000.
Ouais.
D'accord.
J'ai eu une chance.
Est-ce que vous saviez que vous étiez différent?
En fait, j'ai eu une chance. J'ai grandi là-bas, mais j'ai pas vécu là-bas. C'est-à-dire que c'était un quartier dortoir. Moi, en vacances, je passais 3-4 mois au pays. Je restais à la campagne avec mes oncles. Et en fait, ça a évité tout ça. Ça m'a évité d'aller traîner. Ma mère, en fait, elle est illettrée, mais elle avait cette intelligence sociale.
Ah ouais, vous a protégé.
Toujours m'extraire de tout ça.
Ah ouais, elle savait.
Il y a les vacances, tu vas au bled.
Faut se sauver.
Il y a les petites vacances, tu vas en colonie. On t'inscrit au
vous
sport
regrettez
à l'UNSS. Ah non, absolument pas ça.
Absolument pas.
Ça m'a. Et en passant du temps à l'extérieur de la France, j'ai vu que c'était quand même compliqué ailleurs. Et ça m'a donné cette envie de m'en sortir, d'y aller, etc., de faire des choses. Mmh. Et surtout, moi, je voyais les gens, les oncles qui faisaient des choses, qui s'en sortaient avec leurs moyens.
Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes jeune entrepreneur à 26 ans, justement, on va en parler, parce que Born for You, c'est des bornes électriques, etc.
C'est
vous
ça.
Arrivez en précurseur même, d'ailleurs, avant même qu'on puisse parler des voitures électriques et tout ça. Mais comment le goût, justement, d'entreprendre, à quel moment ça vous est venu et à quel moment, justement, ça a marqué le virage vous concernant?
Ça n'a pas été un choix, en fait, ça a été une nécessité. À un moment donné, j'avais 18 ans, je rentrais en prépa.
Non, parce que en off, vous m'avez dit, moi ça m'a interpellé, c'est pour ça que j'essaie d'orienter nos discussions. Vous m'avez dit, je savais qu'il fallait que j'entreprenne.
Ouais.
Et je ne voulais pas être salarié.
C'est ça.
C'est quoi le déclic pour se dire ça?
Je me suis jamais vu m'inscrire et rentrer dans un système quelconque. Je me voyais toujours faire des choses par moi-même. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des petits sites web dès le collège, dès le début du lycée. Je faisais des collèges.
C'est ça qui m'a intéressé.
Vous
étiez au collège, vous fabriquiez des sites.
C'est ça. Mmh. Donc à l'époque, pour ceux qui ont connu le
vous
site.
Vous étiez hacker alors, non?
Justement.
Il y a hacké.
Justement.
Ah d'accord,
justement.
Vous avez hacké.
Non mais attendez.
Ah bah bravo.
À l'époque, je regardais des films et j'avais une fascination pour la culture cyberpunk.
Ouais.
Et donc à un moment donné, je commence à taper sur Google comment devenir un hacker. Et là, je tombe sur le site du Zéro.
Zéro.
Fondé par
c'est
Mathieu Nebra,
le fondateur d'Open Classroom.
Ouais, exactement, d'Open Classroom. Et là, je tombe sur les cours HTML, CSS, JavaScript, Linux. Je rentre dedans à fond. Je commence à faire mes petits sites web à droite, à gauche, à me trouver une passion pour l'informatique. Et ça aussi, ça m'a permis de découvrir ma voie, de me dire voilà, je veux faire des choses. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est avec l'informatique, c'est que tu construis rapidement et tu vois ce que tu produis.
C'est quoi les signatures aujourd'hui qui vous inspirent?
Les signatures?
Est-ce que c'est le fondateur de Facebook? Est-ce que c'est Bill Gates? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui inspire évidemment votre parcours?
Il y en a.
Ils sont jeunes aujourd'hui, parmi ceux qui ont répondu.
Ouais, il y en a deux. C'est Steve Jobs et Musk. Les deux ont été.
Donc Twitter, évidemment, avec.
Surtout SpaceX.
Oui.
SpaceX, je trouve ça absolument incroyable.
Incroyable.
Surtout SpaceX, surtout Tesla et Steve Jobs pour.
Oui. Parce que vous êtes déterminé. Hein. Je sais que vous me l'avez dit en off, vous êtes déterminé.
Bah, il faut, oui, c'est une nécessité.
Alors, Born for You, qu'est-ce que vous voulez faire de Born for You à terme?
Alors, Born for You, c'est déjà pour recontextualiser ce que c'est. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il faudra installer 40 millions de bornes de recharge en Europe.
Pour 40 millions?
40 millions.
On est en retard. Hein.
On
est en retard.
Rien.
On est en retard. Hein.
C'est ça.
Ah, c'est son métier aussi. C'est, on est en retard.
Non, il adore parler de ça.
Donc peut-être t'es technicien Hervé, c'est ça? C'est ça, on en a plein. On en a
et assez, embauchez-le.
Vous
allez l'embaucher.
Tu connais, je pense, Born for You.
Lui, il est bon, lui.
Tu nous connais? C'est vrai?
Allez, postulez. Allez, je vous dis, c'est quoi, Ali? Il a bien fait de vous ramener. Hein. Ça s'appelle la chose de votre vie.
Super, on est connu par l'écosystème, justement. Donc, il faut installer 40 millions de bornes de recharge en Europe pour 2030 et 7 millions en France pour 2030. Ça fait 14 000 bornes de recharge installées chaque semaine.
Mais c'est énorme.
Gigantesque. Et ce que nous, on a constaté, c'est que il y avait le marché du B2B qui était pris par de grosses entreprises. Vous connaissez peut-être Electra, Bump, etc. Et c'est très bien. Mais quand on regarde l'usage des bornes de recharge, 90% de l'usage se fait par des particuliers.
C'est vrai.
Et le segment des particuliers, on a eu ce ressentiment de constater que c'était délaissé. Et donc on a.
Et donc vous avez récupéré ce.
Et donc on est parti sur ce segment-là,
voilà.
Qui en fait sur, qui représente énormément de marché, de volume, étant donné que ça fait sur les 7 millions, c'est 6 millions chez les particuliers et le petit B2C, qu'on considère comme le particulier. Et aujourd'hui, on est un des leaders en France. On est l'installateur qui installe le plus rapidement. On installe en 72
Bravo.
Heures.
Bravo.
Alors que nos concurrents qui sont des géants.
Aussi, ouais, gardez cette énergie justement. On va marquer juste une pause parce que depuis tout à l'heure le réalisateur il pratique le harcèlement. Il me dit si tu lances pas, je vais venir, je vais te chasser. Aussi une belle histoire, franchement belle histoire. C'est pour ça que je voulais vous venir ici, en parler justement. Voilà, de l'Algérie jusqu'ici, la Niaque. Moi j'appelle ça la Niaque. Ouais. Vous devriez écrire un livre.
La Niaque.
Voilà, la Niaque. Aussi la Niaque. À tout de suite. Ne bougez pas, restez avec nous parce que vous savez quoi, il y a du beau monde justement. Louis Bachou, bonsoir.
Bonsoir, cher ami.
Hassan
Mbarak.
Ben oui, je sais Mbarak, pourquoi ?
On avait dit Mbarki.
Ah, pardonnez-moi. Parce que vous voulez me parler d'Hassan Mbarki, t'as le Rachid
Mbarki. Non, mais bon, c'est pas en parler de...
Ali Soumaré !
Salut !
Quel plaisir de vous retrouver.
Toujours, toujours un plaisir.
Nabil Aitakash qui est caché derrière. Ouais. Son micro, je sais pas, il a décidé de... A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Avant de retrouver les informés et le face-à-face, bien sûr, on continue avec cette interview inédite, puisque c'est un parcours atypique, avec Hossine Hossine qui a créé Born for You, une société donc concernant les bornes, bien sûr, électriques. D'un mot, donc vous nous parliez de chiffres, Hossine. Aujourd'hui, quel est l'objectif de Born for You dans les années à venir, dans les 5 prochaines années?
Il y a tellement à faire sur les 2 prochaines années.
Ou les 2 prochaines.
C'est premièrement installer un maximum de bornes.
Avoir, on est en retard, en gros. On est en retard.
C'est ça.
C'est ça.
C'est que faut avoir un chiffre, c'est que il y a 40 000 véhicules électriques qui sont vendus chaque mois en France. Donc faudra équiper au moins 20 ou 30
personnes. Et ça va aller crescendo.
Donc déjà, il faut qu'on est en train de nous structurer pour vraiment pouvoir encaisser ce choc, ce nombre de personnes.
Vous allez tenir le rythme ?
On va tenir, on est obligé.
Vous êtes obligé.
Il faut y aller. Donc il y a ce segment. Après, on va développer d'autres produits, d'autres services. Parce que nous, l'idée, c'est d'être un opérateur de charge globale. C'est pas seulement installer la borne de recharge chez l'utilisateur, chez le consommateur, c'est le suivre dans tout son parcours de charge, à savoir, il se recharge chez lui. Ensuite, en itinérance, on va l'accompagner pour lui proposer les meilleurs tarifs de borne de recharge quand il se charge à sa station, etc. Et de la maintenance, s'il y a un problème, on va le supporter, on va l'aider.
Eh bien, on a envie de vous dire, longue vie à Born for You.
Je vous remercie. Ouais. Si vous avez besoin d'une borne,
absolument,
tapez Born for You sur Google.
En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est votre parcours.
Je vous remercie. Je vous remercie.
Bravo pour le parcours atypique. Et puis, ne lâchez rien. Vous savez, c'est notre devise ici.
De rien lâcher.
Nous, on dit tous les soirs, on lâche rien.
On essaye de rien lâcher et c'est surtout, on ne lâche rien.
On ne lâche rien.
Et soyez bornés dans la vie.
Soyez bornés, c'est pas mal. Born for You, le président qui est là. Donc,
je vous remercie.
Le président Hossine, merci infiniment et au plaisir alors.
Au plaisir.
Attention, vous l'avez déclaré ici en off, vous nous avez dit, si demain vous faites des millions et des millions, vous allez venir nous soutenir. Hein.
On soutiendra.
Vous êtes tous témoins.
La presse libre, autant qu'on peut.
Attention, je reviendrai vers vous, mon cher Hossine.
Ouais, je vous remercie. Je vous laisse en compagnie.
Longue vie à Born for You.
Je vous remercie. Donc,
bien plaisir. Allez, vous allez céder votre siège justement au responsable politique de Renaissance, Nabil Aitakash, qui paraît-il s'est fait s'est fait malmener ce matin par Ali Soumaré. Allez, c'est parti, le face à face.
Les informés. Le face à face.
Le face à face avec Hassan Mbarak. Bonsoir Hassan.
Bonsoir.
Avec Ali Soumaré. Bonsoir. Avec Louis Bachou. Bonsoir.
Bonsoir.
Et sa chronique tout à l'heure dans le Quad 9 à 19h50. Nabil Aitakash, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Messieurs, tout de suite, le sujet qui nous intéresse, c'est Madame Oudéa Castéra, la toute nouvelle ministre de l'Éducation nationale, qui est dans la tourmente, dans la tempête. Écoutez cet extrait, ça a commencé là, à ce moment-là. Et puis ensuite, aujourd'hui, elle a essayé de se rattraper, mais à coup de pas ou pas, certains réclament sa démission. On ne peut plus lui faire confiance après son mensonge à l'école publique. Ça, c'est les profs, ça y est. Le Gabriel Attal qui tente de rattraper, qui tente de... essayer de l'aider, mais tout, enfin bref, ça s'enflamme et ça part en cacahuète pour être trivial, comme disent les jeunes. Écoutez.
Mon mari et moi avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. On habitait rue Stanislas, scolariser nos enfants à Stanislas était un choix de proximité.
La sortie indigne.
Alors justement, sifflet, interpellation, bruit de casserole, une trentaine de personnes a été accueillies, elle a été accueillie fraîchement. Donc les ministres de l'éducation nationale, autant dire, c'était aujourd'hui, hein, je vous le dis, hein, autant la polémique, on peut le dire qu'elle ne s'est pas arrêtée du tout. Bah alors Renaissance, ça commence mal, hein, mon cher Nabil et Takache. Hein.
Non mais écoutez,
bah, ça commence mal pour la ministre de l'éducation nationale.
La polémique, elle est regrettable.
Elle est regrettable.
Elle est regrettable.
Vous avez entendu la ministre, déclaration.
Oui, hein. Non, la ministre s'est rendue aujourd'hui à cette, enfin, au sein de cette école publique parce qu'elle savait qu'elle devait parler. À l'équipe dirigeante, aux professeurs aussi, qui devaient l'entendre. Et elle a présenté ses excuses. Elle a dit à plusieurs reprises qu'elle regrettait ses propos. Écoutez, moi, je crois que le chantier de l'éducation nationale est tellement important que enfin, il faut sortir de
mais
cette
Nabil
séquence.
Mais Nabil Takache, est-ce que ça suffit? Ils disent, et vous l'entendez, ils disent on ne peut plus lui faire confiance après son mensonge.
Non, mais c'est symptomatique.
Elle s'est excusée, on l'entend, mais elle a menti.
C'est symptomatique de ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'on se braque en permanence et à la fin, on ne traite pas les sujets. Donc là, il faut se mettre à la tâche, au travail. L'éducation nationale, c'est un des chantiers les plus importants, si ce n'est pas le plus important aujourd'hui.
Alors pourquoi le chef de l'État a décidé de remettre ce chantier qui est essentiel à une ministre de l'éducation nationale et à la fois ministre des Sports? Franchement, beaucoup se posent la question. Encore tout à l'heure cet après-midi, j'ai discuté avec mes camarades journalistes, ils se posent la question. Ce soir, la question va être posée à la conférence de presse.
Je crois que l'éducation nationale, de toute façon, elle se porte à plusieurs niveaux. Gabriel Attal, le Premier ministre, a dit qu'il la prenait avec lui à Matignon. Vous savez que c'est aussi un domaine sur lequel le président de la République est suit très de près ce dossier. Et donc, vous avez aussi une ministre et aussi des serviteurs de l'État qui sont là pour l'accompagner et bientôt des ministres délégués et des secrétaires d'État.
Alice Oumaré, on fait quoi, franchement? Elle doit démissionner ou, parce que là, ça démarre mal, même pour le chef de l'État.
C'est sûr que c'est un très mauvais signal. Je pense qu'il y a une grosse erreur qui a été commise de sa part, et pas parce que, encore une fois, on va pas refaire le match. Le sujet, c'est pas qu'elle mette ses enfants dans l'école privée. Chacun fait ce qu'il veut avec les moyens. Il y a le mensonge, mais il y a pas que ça. Il y a la dimension symbolique. Ben, je veux dire, moi, je suis pas du camp de Gabriel Attal, mais quand même, Gabriel Attal, en 6 mois, il a essayé, entre guillemets, de mettre un certain nombre de choses en ordre de marche. Mmh. Et il y a une ministre qui vient en quelques minutes, qui saccage tout, en expliquant que finalement, il y a des heures qui ne sont pas remplies. C'est-à-dire, ministre qui est dans un gouvernement qui est là depuis 7 ans. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est pas genre, ils sont pas arrivés.
C'est vrai, c'est vrai ce qu'il dit, elle est sous-marin. Mais c'est vrai, la belle
intégration,
on l'oublie. Non, on oublie cette séquence.
Elle
était là, déjà. Mais c'est vrai.
Elle saccage le bilan.
Il a raison. Il a raison, franchement.
Non, mais attendez, ça, tout le monde sait qu'il y a des heures qui ne sont pas remplacées.
Non, mais c'est pas que dit Alice Oumaré.
Il y a même une ligne dans le budget de l'État qui est dédiée au remplacement des professeurs sur les budgets qui sont attribués à l'éducation.
Le problème, c'est pas ça le sujet. C'est la symbolique d'une ministre de l'Éducation nationale qui est censée remettre en ordre de marche une éducation nationale qui est malade, c'est vrai, qui vient dire, bah écoutez, vous savez quoi, moi je vais remettre en marche, mais par contre, moi, mes enfants, je ne les mets pas dedans parce que c'est trop problématique.
Mais c'est pas ce qu'elle a dit, c'est caricatural. On l'entend de plus en plus, mais c'est pas forcément vrai. C'est ce que j'entends dire, c'est pas forcément vrai. Il y a eu des erreurs, il y a eu une erreur. Elle l'a reconnue.
Alors quelle est l'erreur? C'est quoi l'erreur qu'elle a faite?
L'erreur de ses propos mettant en cause l'école publique dans laquelle elle est scolarisée.
Donc on dit la même chose.
Point. Elle s'est excusée. Passons.
Mais est-ce que le prof dit aujourd'hui, les enseignants disent, et les syndicats disent, ça suffit pas. Les excuses, on n'en veut pas.
Les syndicats, ouais, sont dans leur rôle. Les syndicats
mais
sont dans leur rôle.
Mais c'est plus que les syndicats, y compris les enseignants.
Les enseignants, les syndicats sont dans leur rôle, et c'est comme ça. Il n'y a pas un ministre de l'éducation qui a été épargné par les syndicats et les professeurs.
L'appareil, vous le connaissez. Vous connaissez les rouages évidemment des différents ministères. Hassan Mbarek, vous dites quoi?
Alors moi, je dis tout simplement, j'ai moi-même des filles qui sont scolarisées en banlieue. J'ai une fille en particulier qui était scolarisée en banlieue et qui, de première à terminale, a eu énormément de... Bon, il y a eu énormément de profs qui étaient absents en marketing, à tel point que lorsqu'elle est arrivée au baccalauréat pour préparer son bac, il lui manquait pas mal de cours. Donc, nous qui sommes issus des banlieues, bon, en tout cas moi en tant qu'acteur associatif et qui vit en banlieue, dont les enfants sont scolarisés en banlieue, Je trouve que c'est quand même regrettable qu'une ministre qui quelque part est privilégiée.
C'est vrai, qu'est-ce qu'on envoie comme signal? C'est ce que disait Alice Sommaret tout à l'heure, le signal.
Bon, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, j'étais intervenu en te disant qu'il y avait des petits soucis.
Je me rappelle très bien, c'est vrai.
Et qu'on essayait de faire des interventions.
C'est vrai,
Et rien du tout. C'est toujours pareil. On a l'impression qu'on a affaire à une oligarchie de gens qui sont là. Donc moi, j'estime qu'à partir du moment où cette personne a menti.
Elle doit démissionner.
On démissionne, et puis voilà, on passe à autre chose. Et qu'on choisisse quelqu'un d'autre beaucoup plus.
Vous répondez quoi,
Madame
Takache? Les
demandes.
Moi, j'ai rien à répondre parce que ce n'est pas moi qui décide du maintien, d'une personne ou pas au gouvernement. Ça relève encore une fois, c'est une décision qui relève du président de la République et du Premier ministre. C'est à eux que revient cette décision. Maintenant, moi, je suis pour qu'on aille au-delà de cette polémique. Les heures, on en parlait, on parle de tout sauf des sujets au final. Les heures qui ne sont pas remplacées, j'en avais parlé un jour avec.
Oui,
avec,
mais non, Alice Sommaret vous a rappelé la séquence.
Moi, je voulais parler. Oui, d'accord, mais la séquence.
Ah oui, mais non, moi, je veux parler du plus important. Sujet.
Non, le plus important, c'est les heures qui ne sont pas remplacées.
La bille est à cache, vous le savez. Parce que,
C'est pas parce qu'on est en responsabilité depuis 7 ans que c'est un chantier qui est facile à mener. Je me rappelle, j'ai eu cette discussion avec Blanquer à l'époque quand il était ministre de l'Éducation nationale. Je lui dis sur les statistiques, moi je voyais les lignes de budget, 2 milliards pour le premier degré, 3 milliards pour le second degré, simplement pour les remplacements de professeurs. Je regarde les statistiques, je vois 95% des remplacements sont assurés. J'avais interpellé le ministre à l'époque, je lui avais dit non mais attendez, 95% c'est une moyenne. Aller regarder dans les quartiers populaires où c'est beaucoup plus, en
c'est
fait.
C'est plus important.
Où c'est beaucoup plus important. Et c'est ça, les sujets, en fait. C'est pas une déclaration, une pauvre déclaration de la ministre.
Une pauvre, vous dites ?
Oui, c'est une pauvre déclaration. On va pas s'arrêter à ça. Non, pour moi, l'enjeu de l'éducation nationale, notamment dans les quartiers, et notamment pour pouvoir s'extraire de sa condition sociale, c'est le plus important. Je vais pas m'arrêter à deux phrases, et on va faire une séquence pendant trois jours,
quatre jours. Après, attendez, sur le fond, elle a d'accord. Sur le fond, moi, je suis d'accord avec vous. Sur le fond, elle a raison.
Sur le fond,
elle a raison.
Non, mais sur l'intervention que vous venez de faire, sur le fond, je suis totalement d'accord avec vous.
Et moi, je suis d'accord aussi.
Mais il y a un moment, il faut pouvoir incarner. Il y a tellement de difficultés aujourd'hui dans l'éducation nationale et dans l'éducation dans ces quartiers qu'à un moment, il faut avoir quelqu'un qui puisse piloter une politique et mettre en place des mesures qui soient pertinentes.
Mais Blanquer était là. On ne pouvait pas dire que...
Mais Blanquer reconnaissait lui-même qu'il y avait un lycée, il l'avait dit, le mammouth va mal.
Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez une personne qui incarne très très bien aussi à l'époque, est-ce que Jean-Michel Blanquer a eu plus de facilité ou moins de difficulté? C'était la même chose. On était sur des polémiques en permanence.
Le sage, Louis Bachou.
Non, mais je pense qu'un ministre qui commence sa carrière de ministre de l'Éducation nationale réfléchit avant de parler. Et comme je suis stupéfait qu'elle ait posé cette question, sans se rattraper d'ailleurs aux branches, parce qu'il était facile qu'elle puisse se rattraper aux branches en disant et je suis ministre de l'Éducation nationale et je vais faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins.
Voilà, et c'est
plié. D'heures inutilement
et c'était
passées par nos élèves.
Mais moi je suis...
et c'était immédiat.
Ben oui.
Bon, elle ne s'est même pas rattrapée aux branches. Je suis très inquiet, moi. Si vous voulez, je pense indiscutablement que de l'excellence que j'ai connue chez mes professeurs, qui ont été des missionnaires, parce qu'il ne fallait pas être riche. Moi, j'étais en Algérie. Et on m'a appris le français en Algérie. J'étais de langue grecque. Donc, totalement. Et aujourd'hui, comment voulez-vous que les missionnaires naissent avec...
Donc vous êtes comme Ségolène Royal. Ségolène Royal, par exemple, elle réclame sa démission. Je sais que ça fait sourire un ami, mais
moi, je dis...
Elle
réclame sa démission, Ségolène Royal.
Indiscutablement...
Vous dites comme Hassan Farek ?
Absolument.
Bon, bah écoutez, et vous dites quoi, Alice Sommaret ?
Moi, je suis pas sur le terme démission, non pas pour faire la langue de bois ou quoi que ce soit, parce que pour le coup, c'est pas le sujet. En revanche, il y a une faute politique qui a été commise, et cette faute politique, encore une fois, vous disiez tout à l'heure qu'on est sur une polémique, on n'est pas sur une fausse polémique.
Non,
c'est ça.
Non,
à aucun moment, je vous ai dit que c'était.
Allez, on marque une pause. Attention, on marque une pause, et je voudrais qu'on parle de l'affaire Théo, parce que évidemment, il y a aussi la conférence de ce soir. Je voudrais qu'on parle aussi du chef de l'État qui s'empare évidemment de l'omniprésence médiatique, mais de quoi qu'est-ce qu'il y a, Nabil Takache?
Non, mais l'omniprésence médiatique.
Bah, écoutez, c'est vrai, il sera sur toutes les chaînes. Il y a une mobilisation ce soir, non? Est-ce que sache? Mais c'est vrai, TF1, France 2, moi, France 3,
pas,
M6, RTL, France Inter, enfin bref, tout le monde va diffuser le grand direct de ce soir.
Voilà, tout le monde
Alice ou Marège d'avant.
On est dans un pays libre. Si les chaînes ne veulent pas diffuser.
En plus, on n'a pas les horaires.
Si les chaînes ne veulent pas diffuser, ne diffusent pas.
A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Allez, c'est reparti, on reprend 19h40. Si vous venez de nous retrouver, sachez-le, vous pouvez nous appeler au 01 53 48 3000, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Solal se fait un plaisir de vous accueillir. Comme chaque soir, d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous appeler. Eh bien, allez vous emparer donc justement de votre téléphone pour venir nous parler de l'éducation nationale. Est-ce que vous avez confiance encore en l'éducation nationale ou notamment le service public? C'est la question qu'on se pose ce soir. Louis Bachou est avec nous, Labile Takache, Hassan Mbarek et enfin Ali Soumaré. Nous allons parler de l'affaire Théo. Terrible. L'affaire Théo, quand j'entends cette déclaration, je me dis, évidemment, ça nous interroge. Voilà ce qu'il dit. Hein. Je suis mort depuis, en tout cas, je suis mort le 2 février 2019. 2017. Il a dit ça, il a fait cette déclaration en pleine assise de Seine-Saint-Denis, la vie arrêtée du jeune homme, parce qu'il considère qu'il a plus de vie, il a plus rien, ça y est, en fait c'est un mort vivant. Donc c'est ces trois policiers qui comparaissent devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, souvenez-vous, pour l'interpellation violente en 2017 de Théo Luaka. Donc ce jeune homme s'est vu sa carrière brisée parce qu'il se voyait, comme beaucoup de gamins d'ailleurs des quartiers, en tant que grand footballeur. Mais depuis cette interpellation violente, eh bien Théo se sent comme un mort-vivant qui s'enferme dans sa chambre pour regarder en boucle la même série policière. Il s'est enfermé, il dit « J'ai plus de vie, je ne fais que regarder mon, vous savez, encore et encore, un policier intègre, digne de... » Bref, je ne vais pas refaire toute l'histoire. Faisons un tour de table. Allez, Soumaré.
C'est terrible. Moi, on avait un peu oublié. Enfin, c'est terrible et je m'en suis souvenu là quand l'affaire a été.
Non, on a ces images encore.
Comment? Ah oui, non, mais j'avais oublié. Hein. C'est-à-dire que une fois que j'ai entendu le nom Théo, enfin, c'est pour le coup ça le marque et c'est terrible et son témoignage et pour le coup je l'ai regardé, j'ai lu son témoignage, je l'ai entendu, tu l'as rappelé là, et c'est vraiment terrible parce que c'est plus qu'un traumatisme, c'est un rapport même entre guillemets à l'institution, puisque enfin je veux dire aujourd'hui nombre de jeunes qui peuvent se dire mais attendez. Moi, je ne suis pas à l'abri demain de me retrouver dans ces conditions-là. Et malheureusement, et pour le coup, là, il ne s'agit pas de faire de...
Mais les jeunes, le Théo, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a brisé, vous savez, tout son rêve.
Y a ça, mais malheureusement, il y a aussi le fait que depuis toutes ces années-là, on n'a toujours pas avancé sur le rapport police-population et sur ces bavures qui peuvent exister.
Vous avez raison.
Et donc ça, c'était...
Et vous savez de quoi vous parlez.
Et ça, c'est terrible, voilà.
Ouais. Hassan Mbarek, vous les connaissez ces sujets? Franchement,
je connais, d'autant
vous
plus
les connaissez,
que...
ça fait 40 ans que vous les pratiquez.
Ouais. Bon, la relation entre les jeunes et la police a toujours été conflictuelle et est très difficile. Bon, sauf qu'il y a quand même, ça a quand même un peu évolué, puisque moi j'ai connu les violences.
En quoi ça a évolué? Je reçois tous les spécialistes, ils me disent au contraire.
Ça a évolué dans quel sens? C'est-à-dire que lorsque vous étiez dans le début des années 80, lorsqu'il y avait des problèmes entre les jeunes et la police, il y avait souvent des jeunes qui pouvaient mourir. Les policiers allaient devant les tribunaux et ils étaient acquittés. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Il y a une pression médiatique. Alors, pour revenir sur l'affaire Théo, on avait organisé avec plusieurs associations du collectif, à Aulnay-sous-Bois, même là où il y a eu l'agression, un débat entre des policiers et des jeunes, puisqu'il y a toujours une relation très difficile entre les jeunes et la police. Et plus les années passent, plus c'est de plus en plus difficile. Et même aujourd'hui, pour les policiers, c'est pas facile aujourd'hui. C'est pas facile.
Non, c'est pas facile, c'est vrai.
C'est facile pour personne. Et bon, malheureusement...
Mais là, on parle d'une plaie de 10
cm.
Ouais,
ouais. Oui, mais je dis que c'est facile pour personne. Et bon, malheureusement pour Théo, je veux dire qu'il y a des gens qui... Il y a des morts de jeunes, il y a... En fin de compte, je sais pas vraiment quoi dire. Je veux dire, c'est devenu de plus en plus compliqué. Donc... J'ai l'impression qu'on ne sait pas comment arrêter le cycle.
Il souffre toujours aujourd'hui. Hein, voilà. Il se dit, témoignage qu'il dit, il souffre toujours aujourd'hui et il garde des séquelles irréversibles, selon, pas lui, les experts médicaux.
Les experts médicaux. Je pense que la justice va trancher.
On est en plein dedans.
Mais ce que j'observe, c'est que j'ai l'impression que ça va faire que se radicaliser dans les prochaines années.
Oh, mais entendre ça quand même d'un gamin qui dit... c'est ce que je parlais avec Louis tout à l'heure. Louis Bachou, avant de préparer cette émission, je disais... Il le savait pas. Je lui ai dit, mais ils m'ont mis une matraque dans les fesses. Je me suis senti violé. A dit le jeune homme qui célébrait à peine ses 29 ans. 29 ans. Le jour de son procès aujourd'hui, 29 ans. Nabil Takache.
C'est une affaire qui est... extrêmement tragique. Moi, j'ai beaucoup de peine pour Théo et il faut l'entendre. Je pense qu'il faut entendre ces mots parce qu'en effet, ça reste un traumatisme.
Mais lui dit mort-vivant. Voilà ce qu'il dit.
Oui, mais c'est un traumatisme à vie. Après, je lui souhaite quand même de se reconstruire, d'être accompagné et de retrouver de la résilience et aussi l'envie de faire des choses. Parce que ça, il faut pas s'arrêter à ce traumatisme qui, encore une fois, terrible, horrible, qui a aussi fait beaucoup de mal à l'institution. Qu'est la police. Alors aujourd'hui, maintenant, la justice traite cette affaire. La justice rendra son verdict très prochainement. Mais je souhaite que Théo puisse surtout se réparer.
Louis Bachou.
Eh bien, c'est exactement ça.
Rapport police, oui, justement, jeunes des quartiers populaires. Que dit le sage?
Vous savez, moi, j'ai vécu aux États-Unis. La police aux États-Unis était beaucoup plus brutale.
C'est
que la police,
ça, vous avez connu ça,
que
vrai,
la police française.
Bon, mais elle est différente dans la mentalité.
Mais je dis que, en effet, nous avons un cas particulier, et je souhaite, moi, tout bêtement, que notre ami Théo puisse se reconstruire. Il faut qu'il se reconstruise. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, la justice va juger les policiers. Ce qui est important. Ce qui est rare aux États-Unis, ne vous inquiétez pas, vous n'avez qu'à voir vos séries américaines et vous verrez que on étouffe les problèmes. Donc aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir une police qui passe aux assises. Eh bien, dans ces conditions, remercions et souhaitons à Théo le meilleur possible.
Et ben c'est sur cette belle phrase, belle déclaration évidemment, qu'on souhaite à Théo, s'il nous écoute, un Théo évidemment, à qui j'ai lancé l'invitation pour qu'il vienne ici nous accorder une interview. Rendez-vous avec la Nation, c'est qui? C'est notre président de la République. Rendez-vous avec la Nation, vous vous rendez compte, 3 heures de débat ce soir. Comment va se dérouler cette petite conférence à l'heure de presse qui va durer 3 heures par étude? Non mais sérieux, est-ce que vous avez des billes, tiens, comme on dit dans le jargon journalistique, est-ce que vous avez quelques biscuits à nous donner, mon cher Nabil El Takache?
Non, j'ai pas de.
On parle d'un référendum, paraît-il. Il va faire une. Je sais pas, c'est vrai ça?
Il va y avoir des mesures qui vont être annoncées ce soir. Je pense que le président et le premier ministre sont quand même à cœur de donner un signal aux Français et à nos concitoyens qu'il faut des mesures en effet fortes qui marquent un peu les esprits. Et aussi, je crois que le président de la République s'exprime à un moment où, je le disais ce matin, Ali était là sur CNews. C'est que 2024, c'est une année importante.
Chez Morandini?
D'accord. C'est une année hyper importante 2024. Vous disiez, 4 milliards de personnes dans le monde vont voter à des élections. Donc la démocratie, vous voyez, il y a la Russie, vous avez des pays comme l'Inde, vous avez tous ces pays-là. Il ne faut pas croire que la France vit toute seule dans un monde où il ne se passe rien, en fait, en dehors. Donc il va se passer beaucoup de choses et ça va impacter, bien évidemment, l'Europe et ça va impacter aussi la France. Donc c'est important que le président de la République s'exprime. Moi, je ne vois pas de problème. Il y a beaucoup de gens qui disent que
certains disent qu'il y a un petit parfum de l'ORTF à l'époque.
Non, mais écoutez, non. C'est quand même important qu'un chef de l'État vienne s'exprimer, vienne expliquer son action, l'action de son gouvernement dans ce contexte-là. En plus, c'est les Jeux Olympiques quand même 2024. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un moment aussi, il va falloir qu'on soit tous unis, qu'on est en France, on accueille le monde.
On va voir ce qu'en pensent justement vos camarades débatteurs. Ali Soumaré, tiens.
Sur le fait de s'exprimer en français, évidemment, c'est normal et je pense que c'est important, surtout dans le contexte dans lequel on vit. Sur l'horaire, moi, je pense que c'est une bonne chose, finalement, de s'exprimer plutôt à un moment où les gens ne travaillent pas, parce que ces conférences de presse à 16h ou à 15h, la plupart des gens travaillent. Donc ça, pour le coup, vous voyez, j'ai en capacité de dire ce qui va. En revanche, moi, je pense que vraiment, ce qu'on attend du président de la République ce soir, c'est de donner un cap. Et c'est pas tant des mesures, mais plutôt un cap. Et ce qu'on attend du Premier ministre, c'est plutôt de mettre les mesures qui s'imposent en fonction de ce cap-là. Et la difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir ce cap. Et je crois que Macron doit, à un moment donné, ne pas se comporter en Premier ministre, justement, même s'il fait largement le casting pour le remaniement, mais plutôt en président de la République, dont les Français aujourd'hui attendent qu'il puisse donner un cap. Où est-ce qu'il va?
Les Français attendent un cap, exactement. Hassan Mbarak, et ensuite, après, c'est le quoi de neuf de Louis Bachou.
Comme Ali Soumaré, je pense que c'est une bonne chose que le président s'adresse aux Français. Moi, sur mon segment, qui est particulier, celui des quartiers, des banlieues, Bon, j'étais un petit peu déçu des mesures du Premier ministre, de l'ex-Premier ministre. Donc je pense que, j'espère que sur son intervention, il abordera, qu'il aura des propositions pertinentes à proposer, je dirais, aux acteurs des quartiers. Bon, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, d'ici 3-4 mois, donc au mois d'avril, on a donc l'intention de faire des assises des banlieues avec plusieurs organisations de terrain, de façon à apporter, je dirais, des propositions et des choses positives, quoi.
D'un mot, qu'est-ce que vous attendez du président de la République ce soir, Louis Moi, Bassou, dans le micro, hein.
Beaucoup, c'est-à-dire un projet commun. Jusqu'à présent, on parle de réformes, on n'arrête pas de faire des réformes, sur des réformes, enfin, un projet commun. On ne peut faire l'unité de la France qu'avec un projet commun. Quand moi j'ai commencé à travailler, nous devions reconstruire la France. C'était fabuleux, on était tous ensemble et on en parlait déjà.
Oui. Dans oh, mais il a dit écoles. Le chef de l'État, il a dit réarmer.
Quoi?
Bah, on va le savoir ce soir.
Voilà.
Allez, c'est parti, le Quoi de Neuf.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, comme chaque soir, vous savez, c'est des signatures. Et ce soir, il est en direct avec nous, c'est Louis Bachou et je vous lance avec le sujet, votre billet d'humeur. C'est parti.
J'ai peur, très peur des intelligences artificielles pour demain.
Ah ça oui.
Pour nos enfants.
Même aujourd'hui.
Elles remplacent déjà les professeurs, elles révolutionnent la presse, elles sont dès maintenant dans nos vies. Elles comptent les populations d'insectes pour protéger l'environnement. Elles contribuent à fluidifier la circulation des véhicules dans les villes modernes. On sait depuis longtemps qu'elles ont bouleversé la finance et que le marketing ne peut quasiment plus fonctionner sans elles.
Oui.
Demain, elles transformeront encore plus profondément le monde et toute la diversité de l'activité humaine, qu'elle soit économique ou sociale. Nous ne sommes qu'au début de la révolution de l'intelligence artificielle.
Ah oui,
ça va que vont faire nos enfants? Une dissertation en 3 secondes. Le problème d'algèbre en 2 secondes. Pour que cette transformation contribue à rendre notre société meilleure, les entreprises grandes et petites, les administrations, les associations ont besoin d'ingénieurs, de managers et de cadres supérieurs formés dans cette perspective. A-t-on commencé à éduquer à l'IA nos professeurs? Pas du tout. A-t-on commencé à former nos enfants? Pas du tout. A-t-on commencé à réguler cet outil? Il modifie plus l'homme que les convertisseurs d'énergie de la révolution industrielle. Pour moi, c'est plus important que la révolution industrielle. Pour que l'homme puisse ne pas se soumettre à cet outil, il faut qu'il en devienne le maître par la création, l'imagination, l'invention. Les futurs exécutants de l'IA et des data devront donc faire preuve de compétences scientifiques et techniques, mais également avoir une compréhension élargie du monde. Nos enfants ne doivent pas faire de l'IA leur intelligence et leur mémoire. Il faut qu'ils la considèrent comme un outil qui permet d'avancer plus vite, mais c'est eux qui doivent définir l'objectif. Et pour définir l'objectif, il faut posséder le savoir et la raison.
Moi, je suis d'accord avec vous.
Autrement, la population du monde sera soumise à la loi des 80-20 que vous connaissez tous. 80% seront à l'étable des vivants et 20% vivront en hommes de pouvoir. Et ça, c'est demain. Car aujourd'hui, nous avons 4 milliards d'individus qui vivent avec moins de 200 dollars par mois.
Vous avez raison de le rappeler. Merci pour ce billet d'humeur. La raison, c'est vrai, c'est inquiétant. L'IA va finir par nous bouffer, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, non? Quand on voit les films de science-fiction.
Ah, mais...
Non? Que vous en pensez?
Ouais, c'est toujours...
Avec Will Smith, c'est vrai. L'IA finit par bouffer l'être humain.
Après, il y a
aussi celle qui dirige.
Il y a aussi des avancées dont on bénéficie tous les jours qui sont liées aux avancées technologiques.
Qui vont améliorer la vie des gens.
Voilà, donc
mais
Parce que de Louis Bayou,
on est d'accord. Et c'est un enjeu parmi tous les enjeux considérables qu'on doit en fait.
Mais c'est le principal pour moi aujourd'hui. Je m'aperçois.
Alors on va pas lancer un sujet, c'est la fin de l'émission.
Aucune nation.
Ouais.
Aucune nation Bachou, ne prend en compte Amadi,
Amadi, je dois pour notre propre humanité. Vous avez raison, c'est l'un de, c'est le
sujet. Nabil Takache, le responsable du pôle politique donc de Renaissance. Au plaisir.
Au plaisir. Merci Adil, merci beaucoup.
Bon, vous reviendrez, même si ça fight, non
bah,
c'est bien
toujours,
de fighter de temps en
toujours,
temps.
Toujours. Fidèle au poste.
Louis Bachou, à mardi prochain.
À mardi prochain.
Avec un autre sujet. Hassan Mbarak, faut pas disparaître. Hein.
Non.
Bah oui,
je reviendrai souvent.
Pas parce que bah oui, faut revenir. Hein. Allez Soumaré, vous rentrez, vous faites le tour de l'Afrique, vous.
Je rentre du Sénégal hier.
Ça s'est bien passé.
Très bien.
Très beau pays, le Sénégal. Hein.
Exactement.
Vous savez qu'ils sont favoris pour la CAN.
Ils avancent. Ouais, et il y a des bus depuis.
Il y a trois favoris.
De...
Le Maroc, l'Algérie, le Sénégal. Mais il paraît que le Sénégal. Ils sont bons, hein, les Sénégalais.
Ah, ils sont
hein.
bons, ils sont
vous
ils sont
confirmez
bons. Ils sont bons. Hein. Mais il peut y avoir des surprises aussi hein, en dehors de ces trois pays. Hein.
Ouais.
On ne sait jamais.
Bon, qu'est-ce que vous allez où là, prochain voyage
Sûrement, je retourne au Sénégal.
Au Sénégal.
Ouais, ah, moment, business, je suis abonné là en ce moment-là.
Business. Il y en a qui va à New York. Qu'est-ce que vous voulez vous y donner ils ont,
ah,
non, la bourgeoisie. La bourgeoisie.
Ah, c'est ça, c'est ça.
Et la vraie France. Merci à Solal, à la réalisation Time Sport avec Bilal, Vanessa, ses confidences, avec une émission particulière, c'est les anecdotes ce soir, à ne pas manquer. Les anecdotes avec Vanessa, donc ce soir, rendez-vous à prendre à 21h. Kim, demain matin, dès 7h jusqu'à 10h, et quant à moi, demain avec autant de plaisir, mais surtout, vous savez ce qu'on dit, hein, on ne lâche
on
rien
lâche
les amis.
Rien.
Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h, et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.